Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Quatrième rencontre, de tel quel à l'infini, la vie des revues. Des locaux modestes, des compagnons doués, passionnés et fidèles, d'autres doués aussi mais beaucoup plus ombrageux, Philippe Solers a construit avec constance l'aventure des revues littéraires. Bonheur des découvertes à faire partager, plaisir non dissimulé de la polémique, en creux, lutte contre la vacuité de la marchandise académique et la médiocrité, Philippe Solers se trouve à l'aise dans ce monde-là.
La question était la suivante. Un certain nombre d'esprits au début des années 1960 avaient la conviction, à cause de leur pratique personnelle, ce sont des gens qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont très jeunes, à cause du fait qu'ils aient commencé à écrire, à travailler le langage, que la littérature était une pensée autonome, une pensée spécifique. À partir de là, et ça va durer un certain temps pour tel quel, c'est très simple. On va interpeller ceux qui sont censés penser. Ça se passe en effet dans l'université ou dans les marges de l'université. Et on va leur demander s'ils comprennent, de là où ils sont, philosophie ou psychanalyse, si vous voulez, s'ils comprennent que la littérature pense, ce qu'il s'agit de démontrer. Dans l'histoire de tel quel, c'est très simple. Vous avez d'abord, le programme est de reclasser la bibliothèque qui n'est pas en ordre. Les écrivains de tout premier plan sont marginalisés par un académisme poussif qui va exploser, et pour cause, en 1968. Le travail de Sape pendant ces 10 années consiste à préparer des œuvres complètes qui ne sont pas là. Pas plus pour Antonin Artaud que pour Georges Bataille, que pour Francis Ponge, mais aussi pour Joyce, qui n'est pas traduit ou à peine, qui est considéré comme marginal. Tout ce qui est considéré comme marginal, ou des curiosités, ou des questions de folie, alors que ce sont des effervescences absolument grandioses, qui n'ont rien à voir évidemment avec l'académisme poussif, ni avec la philosophie en cours. Hein. On va interroger donc les penseurs. Est-ce que vous voyez que la littérature ou la poésie pense ? Est-ce que vous avez est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous entendez ? Est-ce que ça vous dit ? Ou pas ? Et là, on peut faire vite le relevé. Bien entendu, Barthes est un complice et un ami de la première heure, car il tend l'oreille à la littérature, comme il l'a prouvé. Mais à ce moment-là, au moment où on fournit, si vous voulez, la guérilla, Barthes est très loin d'être reconnu. Il le sera peu à peu après des critiques multiples. Les universitaires se défendent. Quand il publie Critique et Vérité sur Racine, il y a toute une polémique déclenchée dans le monde par les propriétaires, soi-disant, de la littérature. Les propriétaires académiciens, les propriétaires universitaires, les propriétaires. Ils sont chez eux, ils croient qu'ils mettent de la naphtaline là-dessus, ils endorment tout, ils voient rien, ils n'entendent rien. Et alors, c'était l'attaque portée sur l'université, à très juste titre, parce que qu'est-ce qui s'est passé comme révolution ? En 1968, c'est une révolution qui a éclaté, à la surprise générale, dans l'université, à l'intérieur de l'université. C'est ensuite descendu vers la grève générale, les ouvriers, etc., avec une jonction impossible, mais qui a été quand même énorme. Hein. C'est pas une révolution ratée, c'est une révolution réussie. Ce pays a énormément changé depuis. Donc, Barthes, après ça, rentre au Collège de France, a une voix différente. Bon.
À nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. J'entends en effet par littérature non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constituent l'œuvre, parce que le texte est l'affleurement même de la langue et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Je puis donc dire indifféremment, du moins ici, c'est ce que je ferai, littérature, écriture ou texte.
Foucault, même chose, il est convoqué, nous faisons des colloques à Cerisy à ce moment-là, il vient pour parler, il a publié un livre ou deux, Éloge de la folie, Naissance de la clinique. Il est très loin d'être la vedette qu'il sera par la suite. Même chose pour Lacan. Lacan, à ce moment-là, est dans une sorte de marginalité, de solitude. La preuve, c'est qu'il est chassé de l'école normale supérieure parce qu'il y avait des désordres. Et il faut du temps, il faut beaucoup de temps avant que Lacan ait sa place. Même chose pour Derrida. On va interpeller Derrida, qui est aussi, qui a écrit un livre sur moi qui s'appelle La dissémination, peu importe. On les interroge, ils répondent, ils sortent d'un refoulement. Ils sont là, ils publient énormément, ils vont devenir des stars.
Vous ne parlez pas que d'écrivains ici, vous parlez de penseurs, d'intellectuels, de philosophes.
Mais au nom des écrivains.
D'accord.
Les questions qui se posent.
Et deuxième question, est-ce que vous considérez, parce qu'au fond, ça a toujours été la vocation d'une revue littéraire en tant que telle, au début du siècle, les revues littéraires défendaient par exemple le surréalisme. Donc est-ce que vous considérez qu'à cette époque, on est en 60, hein, on est 8 ans avant mai 68 dont vous parlez,
oui.
Vous étiez avant-gardiste, ou bien est-ce que le mot vous irrite ?
Révolutionnaire, oui.
Révolutionnaire.
Comme toujours. On voyait très bien que le lieu, le maillon faible de la société à ce moment-là, c'était là. Dieu sait que ça a fait du bruit et que ça a créé des ressentiments, des fantasmes considérables. C'est comme s'il y avait eu des saboteurs qualifiés. Ajouter à cela, en effet, la revue littéraire, et le mot est trop,
oui.
est trop restreint, parce qu'on n'est plus du temps de la NRF, on n'est plus du temps de les revues. Par exemple, l'International Situationniste, d'abord, disons, c'est là une des rares revues qui s'impose dans le paysage de cette époque. Il y a évidemment les temps modernes, mais Sartre est quand même tout à fait coincé dans sa position avec les communistes et l'URSS. Que la liberté de critique soit totale en 1954 en URSS, Sartre est gentil, mais enfin, c'est à rire. Bon, et c'est pas grave, parce que lui-même s'intéresse. Ils ont tous ces gens qui sont dits intellectuels, philosophes, etc. Ils ont tous, sans exception, des ambitions littéraires en France. C'est très spécifique. Vous prenez ceux d'aujourd'hui qui circulent comme ça, qu'on fait valoir, que ce soit Debray, il a eu des ambitions littéraires, il a publié des romans. Que ce soit Badiou, il a publié au moins deux romans, très mauvais d'ailleurs, mais ça, c'est pas grave. Que ce soit Bernard-Henri Lévy, il a fait une pièce de théâtre, il a fait du cinéma, il a publié des romans, etc. Voilà. Finkielkraut lui-même s'intéresse, c'est un peu son angle de vue, c'est entre Camus et Kundera, ça suffit pas, vous comprenez. Il faut aller plus loin, il faut ouvrir. Et Solers, lui, alors, écoutez, vous avez trois livres qui prouvent l'étendue de mon enquête, c'est La guerre du goût, et là, je l'ai fini, Discours parfait, le dernier. Et ça, c'est venu de rencontres très régulières avec Barthes, où le projet, c'était de faire une nouvelle encyclopédie, autrement dit. On est dans une époque de mutation, il fallait le sentir dès cette époque, de mutation. Exactement comme au XVIIIe siècle, quand les Lumières ont fait l'encyclopédie. Il fallait redéfinir. Faut refaire une synthèse de savoir. Ça ne va plus, ça ne marche plus. C'est effondré, hein, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, etc., les ravages. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut être condensé? Quel nouveau savoir faut-il produire? Donc, voilà, j'ai oublié dans mon énumération Gilles Deleuze, mais Deleuze a commencé par un petit livre sur Proust absolument remarquable. Arrive à Paris un linguiste américain qui s'appelle Chomsky, qui est tout de suite reçu avec beaucoup de révérence parce qu'il est de gauche, enfin bon, il est contre le gouvernement américain. Mais Chomsky, c'est un linguiste intéressant, mais Noam Chomsky, oui. Mais enfin, il ne s'intéresse absolument pas à la littérature. Tandis que tous les gens dont je viens de parler s'intéressaient d'abord, aussi tout le temps, à la littérature. C'est-à-dire quand même à l'ensemble de la bibliothèque.
Parce qu'ils sont français. C'est très français, vous le dites.
C'est très universel en tant que c'est français. L'universel est français. C'est la seule littérature qui ait donné lieu à une telle effervescence, contradictoire si on veut, mais aussi énorme. Dans les autres pays, c'est un écrivain ou deux, et c'est tout. Shakespeare, Cervantes, Dante, etc. Non, la France, de ce point de vue, est tout à fait spécifique.
Hume est un des philosophes anglais les plus célèbres du XVIIIe siècle. La tradition philosophique a conservé de son œuvre essentiellement deux points. D'une part, la théorie de l'association des idées, où Hume nous montre comment une idée ou une sensation évoque une autre idée. Et d'autre part, son analyse célèbre du principe de causalité. Mais si l'on considère l'ensemble de son œuvre, et si on la replace dans le cadre général du XVIIIe siècle...
Roussel adorait les spectacles, les féeries, les illusions, les petites comédies, les papiers dorés, les fêtes de carton. Non pas, à vrai dire, ces réjouissances foraines, ces clowns tristes et asexués, qui fascinaient à son époque Max Jacob ou Picasso, mais des fêtes plus concertées, plus horlogères, plus inquiétantes. Toutes, presque toutes les œuvres de Roussel sont des fêtes silencieuses comme des cauchemars, des parcs.
Comme toujours, l'idée, c'est éviter les séparations. Il n'y a pas de séparation entre philosophie, poésie, littérature, art, etc. La séparation est imposée par un système de pouvoir. Il faut abolir la séparation, les séparations. C'est donc une tentative de liberté. Il faut abolir ces frontières tracées arbitrairement par le pouvoir politique, le pouvoir idéologique, ou alors tout simplement l'argent. Et puis il y a autre chose, beaucoup plus caché, mais insistant, constant, c'est de faire de l'auto-édition. Si j'ai fait ça avec une telle passion, près de 200 numéros de revues trimestrielles sans publicité, etc., qu'on pourra relire un jour parce qu'il y a des découvertes d'auteurs nouveaux. D'abord, ça, c'est intéressant à faire parce que ça montre si on a ou pas le don des langues, c'est-à-dire le don des langages très différents, voire même opposés aux siens, mais aussi on se donne un espace de liberté qui contredit le système marchand de l'édition. À part Debord qui a fait ça à très haute dose, à savoir qu'on s'édite soi-même et ça a une influence, hein, parce que, encore une fois, c'est 120 numéros de revues. Donc on s'installe, on prend un strapontin plutôt, dans tel ou tel lieu de pouvoir, maison d'édition, Le Seuil d'abord, Gallimard ensuite, et on fait en sorte de publier ce qu'on veut sans contrôle, avec des succès qu'il faut avoir de temps en temps. Hein. C'est-à-dire, moi, j'avais pensé un tract, nous demandons à nos amis d'avoir du succès. C'est-à-dire, pas de marginalité, ce serait se résigner à la séparation. Donc, d'où des interventions de ceux qui en sont capables. Moi, ça ne me coûte pas grand-chose. Dans les médias, la radio, je suis en train de le faire, ou alors à la télévision, ou partout. C'est-à-dire, vous maintenez un contact. Vous émettez sur ondes plus courtes que les autres pour, je ne sais pas, peut-être 5 000 ou 10 000 personnes, ce qui est énorme.
Vous ne cherchez pas la clandestinité, pas du tout.
C'est une forme de clandestinité tout à fait nouvelle. Je refuse la marginalité. Il ne faut pas se laisser marginaliser en province ou quelque part et en tirer et en tirer une sorte d'arrogance tout à fait injustifiée. C'est, comme a dit quelqu'un, c'est bien beau de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser, vous comprenez ? Voilà, donc c'est aussi de l'auto-édition, c'est-à-dire une intervention dans le système marchand du livre. Ça a été ressenti de façon extrêmement négative par l'organisation spectaculaire du marché du livre, c'est-à-dire par 600 romans par an, le roman partout, etc. Ça a été ressenti comme une forme de terrorisme, et en effet, c'est une forme de terrorisme, mais subtile.
Au comité de rédaction, donc vous-même, bien sûr, Jean Edernalier, on va peut-être parler de Jean Edernalier, Jean-René Huguenin, Jean Ricardou, Jean Thibaudeau, Marcelin Plénet,
qui
reste votre fidèle dans le bureau, est ici, dans cette minuscule pièce où nous nous trouvons, Jean-Pierre Fay, je ne les cite peut-être pas tous, mais Jacqueline Risset, Julia Kristeva, bien sûr. Et puis, je feuillette pour vous les numéros de revues de collection et je fais défiler les noms de gens que vous avez fait découvrir ou que vous avez... imposé, j'ai presque envie de dire, Artaud, Bataille, Ponge, Heidegger, Hölderlin, Dante, Pound, Borges, Barthes, Klossowski, Rilke, Michaud, Sarraute, Saussure, Foucault, Derrida, Joyce, Sade, Genet, Philippe Roth, que vous aimez beaucoup, écrivain américain, aujourd'hui très connu, mais il ne devait pas l'être à ce point, Plénet, Denis Roche, Kristeva, Guyotat, etc. Et j'ai envie de vous demander de lire la suite... cet extrait de votre ouvrage, un vrai roman, à partir de là, si vous le voulez bien.
L'objectif est donc, à partir de la littérature, bibliothèque rouverte et pratique constante, d'interroger la philosophie, l'art, la science, la politique, sous-titre de tel quel comme de l'infini. Nul n'entre à tel quel s'il n'a un rapport singulier au langage. La psychanalyse est bienvenue, les formalistes russes aussi, contre le réalisme totalitaire, c'est comme ça qu'on a publié Roman Jakobson, qui nous a soutenu tout de suite. La bibliothèque rouverte, ça veut dire, par exemple, Dante et la traversée de l'écriture, un texte de moi en 1965, et dans le même mouvement que Drame, un roman de moi de l'époque, la nouvelle traduction par Jacqueline Risset de la Divine Comédie. Voilà un apport de cette revue d'avant-garde terroriste, c'est-à-dire la première traduction bilingue, qui est maintenant fait autorité partout, de Dante, ce qui n'est pas rien. Il y avait donc aussi des interpellations diverses, critiques du surréalisme, tout en le reconnaissant, soutien tactique au nouveau roman, il y a eu beaucoup d'interviews de uns et des autres, Rob Grier, Sarraute, etc., le marché littéraire en tremble encore, le nouveau roman qui a détruit la littérature française, etc. Tout ça a été beaucoup transposé aux États-Unis d'Amérique, ce qu'ils ont appelé la French Theory, l'insistance sur Joyce, l'accentuation de l'autre amour, c'est là qu'on voit que c'est fondamental, jusqu'à une pléiade refaite tout récemment, qui montre les différentes lectures de l'autre amour. Vous voyez comme le temps passe très lentement et tout à coup très vite. Hein, et ça c'est le livre de Plénet, l'autre amont par lui-même, qui fait date en 1967. Beaucoup de choses se passent en 1966, 1967, 65, par là, juste avant l'explosion de 68. Vous avez dans 67 la Société du spectacle de Debord, voilà, par exemple. Hein. Et puis la suite a changé à beaucoup les mœurs, la communication, on pense, enfin, comment les femmes étaient-elles perçues, les homosexuels, patati patata. C'est vraiment une coupure qui fait peur. Comme a dit le président de la République actuelle, il faut éradiquer 1968. Mais pourquoi voulez-vous éradiquer quelque chose qui a pleinement, non pas raté, mais réussi? Il ne s'en rend même pas compte. Il ne serait pas là sans ça. C'est un effet choquant, mais c'est comme ça. Alors, bref... on vit comme on lit et comme on écrit, parce que la pratique est la constante. Ce ne sont pas des jeunes gens qui vont interroger des penseurs de façon subordonnée. Pas du tout. C'est d'égal à égal, avec un sentiment même de supériorité de notre part. Mais c'est gentil. ont pas mal d'âge. Mais justement, il faut aller vite, parce que ça ne peut pas durer, quoi. Il faut transformer tout ça.
Sentiez venir cette explosion sociale avec ces gens-là et ces textes-là.
Oui,
vous auriez pu la prévoir.
Mais c'était prévisible dans la mesure où ça, le corsetage sur ces choses qui ont l'air de choses secondaires mais qui sont essentielles en fait. Il s'agit de la pensée. Bien entendu, ça pouvait pas. L'ignorant. Voilà ce qu'il y a. À cette époque-là, on pouvait culpabiliser encore les gens en place. On pouvait les culpabiliser par rapport à leur ignorance. Ils se sentaient pas très bien. C'est pour ça qu'on a pu avancer. Hein, avec des troupes très inférieures en nombre et en pouvoir. C'était un bureau avec un téléphone. Avec une revue trimestrielle, vous imaginez. Plus des conférences, on a fait des événements. Par exemple sur Sade, à Saint-Germain-des-Prés, avec le Sofsky, Deleuze, enfin bon, peu importe. Mais aujourd'hui, on ne peut plus culpabiliser personne. L'ignorant est tout à fait content, fier de l'être. Alors les questions c'était comment ça parle, comment fonctionnent les mythes, ça c'est Lévi-Strauss par exemple ou d'autres. Qu'est-ce que le sujet dit qu'il ne sait pas, ça c'est évidemment la psychanalyse. Ça aussi j'ai tout à fait oublié. On parle de Freud sans savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire d'abord, est-ce que vous avez eu un rêve? Forcément, ben alors racontez-le. On va l'interpréter. Qu'en est-il des différents systèmes symboliques à travers les langues? Ça a été aussi une aventure considérable. Pourquoi cette effarante ignorance de l'hébreu, de l'inde et du chinois? Et là, vous consultez les numéros de revue, que ce soit dans tel quel ou dans l'infini, c'est constant. Il y a un appel à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, et non pas un repli hexagonal qui était sur le point d'exploser. Et ben, c'est vrai. Le chinois, il fallait en faire un peu. Moi, j'en ai fait 2 ou 3 ans pour savoir un peu comment ça fonctionnait. Ça m'intéressait. La pensée chinoise nous intéressait. On a retenu le maoïsme comme épisode de surface. En réalité, ce qu'il y a de profond, il faut regarder les numéros de tel quel, c'est l'intérêt pour la pensée chinoise. Voilà ce qui a fait, en somme, je vais trop vite, bien sûr, mais le temps de tel quel.
Lisez-le ce paragraphe jusqu'au bout.
Vous voulez que je poursuive ici?
Ouais.
Un pas de plus, dis-je, et la fontaine vous paraîtra un jour aussi révolutionnaire qu'Antonin Artaud. Nous sommes dans cette courbure. Homère vous paraîtra aussi révolutionnaire que Proust ou Céline, Eschyle que Georges Bataille, Villon que Genet. Sans parler de la peinture et de la musique, énorme archive ressuscitée, Renaissance et audace, Picasso montre la voie. Dieu sait avec quelle difficulté lui aussi, avec une énergie considérable. L'oubli menace sans cesse, le sommeil de la raison engendre les monstres, comme a dit Goya. Il faut une nouvelle raison, un nouvel amour, comme dit Rimbaud. Voilà. On se donne les moyens du bord, le contrôle d'une publication périodique, modeste moyen, grands effets. C'était faisable à l'époque. Les règles de fonctionnement de telles quelles. C'était le vouvoiement de rigueur, pas d'intimité. La vie privée, jamais interrogée. Personne ne venait avec son roman familial ou ses romans sentimentaux. Exclu. Chacun vit comme il veut et on n'a pas à le savoir. Et la règle, c'était montrer ce que vous avez écrit, c'est tout. Voilà. Vous voyez bien, des terroristes.
De Jean Edernalier, il fait partie donc des fondateurs, c'était votre ami.
Ça a été très, très bref, ça a été une rencontre de jeunes gens à l'époque, de 22-23 ans, qui se rassemblent, qui discutent, qui boivent un peu la nuit, etc. c'était tout à fait naturel. C'était le projet d'une revue qui nous a rassemblés. Là-dessus, ça a été quand même assez vite. Elle y a commencé à déconner largement. Il ne comprenait pas le but qui était là. Je dois dire que je suis responsable de la disparition de la plupart des membres du comité de rédaction au cours de cette période. Ça a très très mal tourné. Pour des raisons politiques, historiques, profondes. Le père d'Allier était un ancien... C'était un général à la retraite, ancien ambassadeur de Vichy. Bref, au moment de la guerre d'Algérie, ça a très très mal tourné parce que mon dossier, d'abord j'étais dans les hôpitaux militaires, je pouvais m'en sortir. Mon dossier est arrivé à la frontière électrifiée entre l'Algérie et la Tunisie. On mourait beaucoup. Il ne faut pas oublier que plusieurs de mes amis sont morts dans ces choses-là. Bref, on s'est brouillé sauvagement, c'est vaguement réparé par la suite. Mais non. Et c'est vrai qu'il a, il a laissé une trace, anarchiste, si on peut, dire, qui n'a pas manqué de talent, parce que c'était un vrai caractère. Une sorte de... Donc l'idiot international, les émissions de télévision, il jetait les livres, comme ça. Bon. Il laisse une trace, il a ses fans. Maintenant, oui, il y a un livre ou deux, peut-être un livre et demi. Il a préféré s'agiter que de faire comme on dit. Et il faut renforcer ce mot. Une œuvre.
Le passage de tel quel à l'infini, on peut revenir sur le titre l'infini, alors il y a eu des épisodes un petit peu... politico, éditorial, je ne sais pas. Vous avez changé d'éditeur, tout simplement. Vous avez quitté Le Seuil pour Gallimard. Est-ce que c'est intéressant de dire pourquoi, comment ?
Bon, c'est très simple. Le tel quel était donc un kyste au Seuil, avec une grande... Personne ne pouvait contrôler ce qu'on allait publier. Mais nous avions des soutiens puissants. C'est-à-dire que c'était quand même des gens comme Barthes, comme Lacan, qui étaient aussi des auteurs qui faisaient peur. Encore une fois, qu'ils pouvaient culpabiliser l'éditeur. Et puis à un moment donné, ils sont morts. Voilà. Donc à ce moment-là, nous avions perdu un soutien aérien précieux. Il valait bien déménager. Et de toute façon, quand on avait nos réunions telles quelles, l'objectif, l'horizon, c'était évidemment Gallimard. Pourquoi ? Parce que c'est le fond. Parce que c'est la banque centrale, comme j'ai dit, et que tout le travail qu'on a fait sur Bataille, sur Artaud, etc., c'était vraiment, ça a porté ses fruits. La mémoire, l'accumulation, c'est Gallimard. Étrange Gallimard, qui traverse un siècle entier, une sorte de paquebot, les glaces s'effondrent, les ours se noient. Voilà, ce qui compte maintenant, c'est la rotation d'argent chez les éditeurs, de plus en plus. Et où est-ce qu'il y a un fond ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où on peut voir les choses. Voilà, je ne suis pas du tout contre le Louvre, c'est très 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 précieux, même que tous les... à condition de ne pas y rentrer comme dans un musée, mais d'y rentrer avec une intention ardente de faire vivre tout ce qui a eu lieu.
Oublions qu'Augustin est un saint, un évêque, un père de l'Église. Ouvrons ses livres et disons. La sensation de fraîcheur et d'urgence est immédiate. On dirait que l'encre est à peine sèche, bleue, là, sous nos yeux. Les confessions ont été écrites à la fin du IVe siècle. Nous entrons dans le troisième millénaire, aucune importance. Un jeune écrivain nous parle à l'oreille, son latin électrique emporte le français au-delà de lui-même. Rien de plus normal, puisqu'il est question du temps et de sa substance, que nous croyons mesurer sans la voir. Augustin est un musicien. D'abord, la puissance de l'interrogation, comme s'il appelait de toutes ses forces. Ensuite, le récit de sa naissance à la suspension du parcours. La méditation prend le relais et enfin, le chant poétique comme une cascade de psaumes. Il suffit de sentir que Dieu est le langage en personne, qu'il enveloppe, façonne et soutient tout, y compris à notre insu. L'audace consiste à le tutoyer de mieux en mieux pour savoir dire « je » avec plénitude. « Je » est un autre. Je parlerai à cet autre. Je dois apprendre à le lire, à l'écouter comme une langue étrangère qui est vraiment la mienne, mais dont une force négative essaye de me détourner. Le bavardage est incessant. Le faux savoir pullule. Dieu, lui, est, dit Augustin, plus intérieur que l'intime de moi-même, plus haut que le plus haut de moi-même. Je dois d'abord devenir pour moi, dit-il, une immense énigme. Qui suis-je? Que suis-je venu faire ici à travers ma naissance biologique? Ai-je été jeté dans une vie mourante ou dans une mort vivante? Où est la réponse? Où est l'enjeu?
Donc Gallimard l'infini. Pourquoi l'infini, ce titre, vous l'avez c'est vous qui l'avez choisi?
Oui, c'est moi. Tout le monde m'a ri au nez quand j'ai dit ça. Comme je me rappelle, c'est Françoise Verdi, la grosse Françoise Verdi, qui ne comprenait absolument rien de ce que je voulais faire, qui voulait même me voir pour éventuellement retoucher femme. Elle trouvait qu'il y avait trop de sexe. Enfin bon, évidemment... J'ai fait la sourde oreille, je ne veux pas qu'on me corrige une seule virgule dans ce que j'écris, ça va de soi. Alors l'infini, mais tu dis pas, c'est pas chéri, l'infini, c'est ridicule, que va dire le canard enchaîné, chéri, l'infini. Ben l'infini, c'est l'infini, voilà, c'est comme ça, c'est large, c'est ouvert, il peut se passer beaucoup de choses. Et le numéro 111 va paraître incessamment sous peu, voilà.
On va parler du Goncourt, parce qu'il y en a eu, et des prix littéraires que vous avez obtenus, mais auparavant, c'est vous-même qui l'avez dit, je crois, avant tout, c'est la jeune littérature qui intéresse l'infini.
Oui, il y a eu des succès, heureusement. Bon, le magnifique Ingrid Cavan de Jean-Jacques Schul, le prix Interallié avec polémique à la clé de Yannick Enel. Enfin, bon, des livres notables. Bon, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu le même succès, mais qui n'en sont pas moins très importants, que j'ai publié dans la collection. Par exemple, le 19e siècle à travers les âges de Philippe Muret, qui a connu une sorte de succès par la suite, enfin de reconnaissance sociale. Bon, le problème est le suivant, c'est que j'ai de mauvais rapports avec la génération qui a maintenant entre 45, 50 ans et 80. Bon, ça va pas. En revanche, des gens qui sont plus jeunes, sauf exception, des gens qui ont 40, 45, qui acceptent l'hypothèse de mon existence sans avoir de ressentiment. Mais les gens plus jeunes, alors, c'est beaucoup plus agréable, parce que comme ils ont 40 ans de moins que moi, au moins, pourquoi voulez-vous qu'ils m'en veuillent? Ils peuvent avoir biologiquement la quasi-certitude que je serai mort avant eux, sauf accident pour eux.
Donc
c'est très intéressant de voir ceux qui résistent, ceux qui sont réfractaires, ceux qui ont le système nerveux dans une époque beaucoup plus difficile que l'époque que j'ai vécue à leur âge.
Tout à fait.
C'est beaucoup plus difficile. Il y avait beaucoup plus d'aisance. J'ai vécu sans argent, je ne sais pas comment, pendant des années. En me débrouillant à 25, 26 dans les restaurants universitaires, tout ça, la pagaille, la débauche assez prononcée, etc. Et il y avait une sorte de quasi... malgré les drames, il y avait la guerre d'Algérie, il y avait tout ça. Eh bien... c'était beaucoup plus libre. ce n'est plus possible. Un auteur jeune maintenant qui n'a pas presque tout de suite du succès, pour un livre, deux livres, trois livres, c'est très compliqué dans la durée. Il faut que ça tourne. Pour un livre, vous savez, c'est deux mois, trois mois. Après ça, c'est fini. Alors, encore une fois, l'idée, c'est de s'acharner à produire du fond.
Des noms que vous défendez dans ce que vous appelez cette France moisie, hein, c'est l'adjectif est de vous.
Oui.
Angot.
Oui.
Dario Sec.
Oui.
Catherine Cusset. Je cite des gens connus, Frédéric Bette-Bédé.
Oui, je les ai tous publiés. Et parfois, pour certains d'entre eux, leurs meilleurs livres sont ceux que j'ai publiés.
Mais le métier de découvreur est quand même une grande fierté. Vous vous percevez comme éditeur, vous êtes un éditeur.
Vous savez, l'écriture, contrairement à ce qu'on croit, c'est une voie. Vous ouvrez, j'en reçois maintenant, je ne sais pas, je vous assure, presque 4 manuscrits par jour. C'est vite vu. On voit si les mains sont sur le clavier, s'il y a l'énergie nécessaire. Alors à ce moment-là, ça marche. Je ne fais jamais travailler de manuscrits. En fait, voilà, non.
Vous n'avez jamais fait ça.
Ça arrive, jamais. Qui veut rater, rate. Tant pis. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un s'accroche à quelque chose qui est fondamental chez lui. Et il va pas changer grand-chose. Il va s'obstiner ou il va mourir. Voilà, c'est comme ça.
Mais il vous arrive de suggérer ou il vous arrive de dire « ça passe pas, j'aime beaucoup ce passage-là, mais après ça va plus du tout ?»
Ça m'est arrivé pour des livres que je n'ai pas publiés, d'auteurs que je trouve estimables. Je leur ai fait parfois courtoisement remarquer qu'il y avait là, ou par hasard, je ne sais pas, 30 ou 40 pages de trop. Enfin, je ne dirais pas qui, mais enfin, je vois qu'ils n'ont pas tenu tout à fait la route. Le meilleur livre de Bec-Bédé, puisqu'on venait de citer son nom, c'est indubitablement Nouvelle sous extasie que j'ai publié. Voilà, c'est son meilleur livre. Ce sont des livres qui ont eu rarement pour les auteurs que vous avez cités, rarement du succès. Mais quand même, Caven et Nel, qui est un des plus brillants. Et puis, ça m'intéresse de savoir comment évoluera Ligne de risque, cette petite revue totalement marginale, dont personne ne se préoccupe à tort, parce que c'est dans le courant fondamental. Le fond, le profond, si possible.
C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. J'ai répété cette phrase toute la journée, en longeant la scène. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Il y avait une lumière nouvelle dans les arbres, du vert partout, du bleu, et ce vent léger où flottent les désirs. J'ignore d'où venait cette phrase, mais elle glissait bien dans ma tête. Avec elle, une joie bizarre se diffusait dans l'air d'avril, une joie de solitude qui vous ouvre la route. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Aussitôt, il y a eu une série d'étincelles autour de ma tête, puis la phrase s'est enroulée autour de mes épaules en y traçant des lignes rouges, oranges, jaunes. Elle a cheminé le long de mon bras, lentement, jusqu'à ma main qui s'est gorgée d'un sang bleu noir. C'est ainsi que ce livre a commencé à s'écrire. La scène, les arbres et mon corps se sont mis à tourner dans un instant de vide. Je n'ai pas eu le vertige. Au contraire, tout était affecté de vertige, sauf moi. Je brûlais, mon corps n'était plus mon corps, mais un buisson de flammes d'où sortaient des phrases. Ces phrases tourbillonnaient dans la lumière au-dessus de l'eau comme des tapis volants. Elles formaient dans le ciel d'immenses rubans de nacre. Un calme étrange fleurissait dans ma tête. « Laisse faire, me disais-je. Surtout, laisse faire. Un passage va s'ouvrir, et ce passage, tu l'appelleras Cercle. »
Philippe Solers, lorsque vous lisez Cercle d'Yannick Enel, il vous donne un manuscrit tel quel, vous lisez les premières pages, titré Aventure, et vous aimez.
Voilà, je viens de lire le début de Cercle. C'est immédiat, vous avez envie de tourner la page. Alors on peut continuer, si vous voulez. Pourquoi le narrateur ne va-t-il pas prendre le train de 8h07, comme tous les jours, pour aller à son travail? Pourquoi va-t-il envoyer balader les documents qu'il a dans sa serviette au-dessus de la Seine? Pourquoi va-t-il téléphoner à la personne qui l'attend pour son travail, pour dire qu'il n'ira pas travailler, etc., etc. C'est donc une mise en liberté. Et là, simplement la phrase que tout le monde, à mon avis, devrait se dire, se redire tous les matins. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie, parce qu'on vit dans la non-vie, dans la survie. en l'absence de vie.
Et là, on a un auteur en face de soi, donc on a du plaisir.
Quelque chose continue qui fait que on a tout à coup, c'est rare, hein, attention, c'est très rare, on a tout à coup la certitude que quelqu'un est là avec les mains posées sur le clavier comme il faut, sur le clavier de la vie.
Marcelin Plainé, parce qu'on parle beaucoup de gens qui vous ont accompagné, qui ont accompagné votre parcours. Marcelin Plainé, c'est votre compagnon de toujours. Et là, nous sommes. Là, je redécris une fois de plus notre minuscule bureau qui donne sur... Absolument. Il travaille à côté de vous, à moins d'un mètre, donc dans cette très petite pièce. Voilà. Et il vous a suivi ici.
Marcelin Plainé est quelqu'un de scandaleusement méconnu. Il paye le prix de cette fréquentation constante, de ce travail constant avec moi. C'est évidemment, je pense que beaucoup de gens aimeraient être à sa place et que par conséquent, c'est comme s'il était transparent. Comme je me débrouille dans le spectacle sociologiquement, Plainé est quelqu'un qui vit en retrait, qui ne fréquente pas, qui est dans une situation plutôt de retrait. Ça coûte très cher, le retrait. Ben, voilà. Scandaleusement méconnu, sa poésie, scandaleusement méconnu parce qu'il est à la source de toute la... de tout l'extraordinaire intérêt pour l'autre amour, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ses essais sur l'art ou la peinture sont absolument magnifiques. Le Matisse ou le Cézanne qui vient de ressortir en folio, ce sont des livres majeurs. Il y a un article là qui vient de paraître en Suisse, pas en France, parce que voilà, c'est censuré. Et qui montre à quel point c'est un livre important. C'est quelqu'un d'étonnant parce qu'il ne se plaint jamais... et qu'il a des convictions poétiques profondes. Donc, ce que vous voulez, tant pis, c'est un terroriste. Je vais lire donc un extrait de Chronique vénitienne de Marcelin Plainé en 2010, paru dans la collection L'Infini, et je rappelle qu'il a fait aussi un livre sur Matisse, et un livre qui s'appelle Les modernes et la tradition, où il s'occupe beaucoup de peinture. L'exode. Immédiatement, nous quittons Paris. Sur les routes, dans une mauvaise voiture, suivant le troupeau livré à lui-même. Le ciel d'été menaçant, l'aviation allemande, nous nous réfugions dans les champs à la lisière d'une maigre forêt. La sensibilité, la sensualité découverte à 100%. Le corps pense vite, la tête suit comme elle peut. Le jamais vu. Le ciel menaçant, la campagne le long des routes, la chaleur, l'odeur de la terre, des herbes, cachée, la tête enfoncée dans l'humus, je ne sais pas, la peur peut-être, ils ont tous peur. La peur accompagne pour moi ce nouveau jeu, je traverse leur peur, j'invente. Sans le savoir, j'accomplis mon propre exode, c'est un jeu, je ne connais pas la peur. Alors, le corps meurtri est une pensée vigilante. Sa capacité de distinguer, de comparer, de créer, d'organiser et d'être organisé est encore plus grande lorsqu'il est moins maître de lui. Je vis depuis toujours dans ce rapport de totale dépendance, dans cette intimité avec les éléments qui constituent le ton fondamental de mon caractère. Dans le bruit assourdissant, dans le crépitement des mitrailleuses, un événement... Le silence se creuse. Nous courons. Je bute sur le corps d'un homme couché dans l'herbe. C'est plein de sang. That's enough? OK. Et c'est intéressant parce que on a Plainé et Edel qui ont plus de 35 ans d'écart d'âge. Hein.
Disant cela, vous voulez dire que vous faites des liens entre eux? C'est une famille quand même pour vous?
Je veux dire... que ce qui frappe le plus à travers le temps, c'est si un écrivain est lié parfois de façon très indirecte, mais très profonde, à l'histoire. Et quelle histoire ?
la plupart sont très ignorants de l'histoire. Donc là, vous avez un passage de Pleydée où il se souvient d'avoir erré sur les routes de France pendant l'Exode, pendant qu'une radio bientôt allait parler depuis Londres. Mais vous avez aussi, des années après, quelqu'un qui tout à coup se découvre aussi décalé, aussi réfractaire par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est aussi mon histoire, mais racontée chaque fois différemment, selon des positions différentes. Qu'est-ce qui se continue? C'est une façon de ne pas participer à la peur, à l'exode, à être ensemble dans la peur et dans la fausse vie. C'est une armée, très petite armée, de réfractaires.
On est en train de passer là du métier d'éditeur ou de publicateur de revue.
Mais voyez, c'est, vous employez le mot métier, oui. C'est pas ça.
Ça vous plaît pas,
c'est, non. C'est un jeu où il faut avoir différentes façons d'intervenir. Voilà, c'est pas un métier. Le travail, c'est pas sérieux. Le jeu, c'est très sérieux. Voilà. Donc ça, ça dépend comment on a été enfant. Hein. C'est là que ça se passe. Donc, pas de séparation. On peut, si vous voulez, à la limite, je peux faire une revue, je peux écrire dans les journaux, je peux parler à la radio, je peux aller parler à la télévision de façon à peu près un peu comme ça. On me réinvite, c'est pas moi qui tire les sonnettes. Hein. Bon, excusez-moi, mais ça c'est vraiment l'inspiration vraiment des 18e qui parle là. Il n'y a pas de séparation à faire.
Mais vous savez pourquoi on vous réinvite? Parce que les médias sont...
Je sais pas, oui.
Les pas. Médias sont paresseux, vous êtes un bon client.
Une fois qu'on est archivé... Ouais,
non, mais on aime bien vous entendre, on sait que ça va bien se passer.
Oui, vous savez, ça donne...
Mais vous aussi, ça vous amuse.
Ça donne des résultats cocasses, les gens qui vous demandent. Je vous assure que l'anecdote est vraie, c'était un jour à Venise. Est-ce que c'est bien moi qui vous ai vu à la télévision? Je me suis dit, sans doute... Vous pouvez me rappeler votre nom, me dit une hôtesse de l'air, que j'ai l'air cultivé. Elle était en train de discuter avec ses copines, elle m'offre un verre de champagne, et elle revient vers moi, elle me dit, rappelez-moi votre nom pour que j'ai l'air cultivé, c'est charmant, c'est délicieux. Mon nom ne lui disait rien, évidemment. De passer sur les différentes désinformations m'ayant attribué, parce que ça s'est calmé un peu, c'est inquiétant, les différentes désinformations m'attribuant de temps en temps un pouvoir exorbitant dans la République des lettres, alors que sur ce dernier point, je suis plutôt d'un monarchisme endiablé. À en croire une multitude d'articles, je serais un Manitou, maniant tout. Un parrain, un faiseur d'opinion et de prix, moi qui ne vois jamais aucun juré du cirque, sauf très, très rarement. En tout cas, un agent d'influence considérable. Rumeur risible et qui ne demande qu'à se transformer en son contraire. On m'aura même accusé de diriger le monde des livres pendant un temps où je publiais chaque mois des articles classiques repris avec beaucoup d'autres dans La guerre du goût ou Éloge de l'infini. Je dois dire que depuis que je ne les publie plus dans Le Monde, mais dans l'Observateur, le monde des livres a bien baissé et que si je l'avais vraiment dirigé, il aurait été bien meilleur. En revanche, une amie comme Josiane Savigno a été et reste une amie qui aime mes livres. Et alors, elle a bien le droit d'aimer mes livres. Alors, quel procès ne l'a-t-on pas fait de façon absolument parfois ordurière, hein. Je ne suis jamais intervenu en quoi que ce soit dans la rédaction de ce supplément institutionnel, où d'ailleurs je n'ai mis les pieds qu'une fois pour un verre rapide. Ça n'a pas empêché une effrayante cabale des médiocres contre Savigno, injures et insanités, jalousie, écume. Que mes amis et mes proches ne finissent pas par me détester à cause de toutes les malfaisances et les dommages dont ils sont l'objet à mon sujet, est une grâce. Après tout, je dois la mériter.
Vous êtes un polémiste ?
Polémique, oui, polémos, oui, puisque c'est la guerre. Donc je peux éventuellement choisir d'intervenir d'une façon insolite. En général, jamais dans le pamphlet à proprement parler, toujours dans l'ironie, qui est souvent mal comprise. Donc ça, je peux tout à coup décider de ne pas prendre au sérieux ce que tout le monde prend au sérieux. Encore une fois, c'est Voltaire qui m'inspire là-dessus. Polémiste, il faut avoir d'autres talents. Parce que si on n'est que polémiste, ça veut dire que ça ne va pas très 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 loin. Il faut parler d'une façon que, sans en avoir l'air, vous crevez un abcès de sérieux, ou un abcès de préjugés, ou un abcès de crédulité. Dieu sait que ça ne manque pas.
Enfin, vous êtes attaqué peut-être plus souvent que vous n'attaquez, mais enfin, vous avez aussi la dent dure.
Vous allez mettre tous les articles publiés sur moi, il y en a vraiment.
Il y en a beaucoup.
L'ordinateur va fumer, est-il bon, est-il méchant, voilà. Il y a des moments où ça se calme, puis ça repart. Ce qui est intéressant, parce qu'après tout, pourquoi ne pas laisser tomber ? Non, il y a donc quelque chose qui prouve que ça touche. Alors, la guerre, c'est... vous savez bien que c'est la guerre défensive qui est la plus importante, qui n'est pas du tout une guerre de retrait. La défensive, c'est pour préparer une contre-offensive. Voilà, je raisonne presque spontanément en termes militaires, comme ça, pour aller vite. Mais quand même, je crois que ça vient de cette enfance au milieu de gens qui avaient fait de l'escrime, quand même. Hein. Ce grand-père maternel, qui était quand même un escrimeur, c'est donc... Et ma mère qui a fait de l'escrime, pour une femme, c'est peu fréquent. Non. C'est-à-dire, à la fin de l'envoi, je touche, comme on dit. Le problème, c'est de toucher juste. Je n'y arrive pas toujours. Ben enfin, il faut être... Voilà, ça dépend si on peut pratiquer des sports de combat. Je n'ai pas fait de judo, de choses comme ça. Quoique, ce qui m'intéresse dans ça... Vous regardez Guerre secrète, je parle des Chinois avec la... Se servir de la force de l'adversaire est quand même un art compliqué. Si vous êtes attaqué, eh bien vous allez vous reculer, vous allez laisser pénétrer l'adversaire très loin, donner aucun signe de résistance quand vous y étiez abattu, déprimé, etc. Et puis tout à coup, hop, voilà. On attaque quand on peut. Jamais de chocs frontaux. Vous voyez, ça c'est l'art de la guérilla de Lorenz que j'ai publié. C'est Pierre Naville qui m'a donné ça à la fin de sa vie. L'art de la guérilla, c'est un texte absolument magnifique, d'un très grand inventeur sur le plan militaire. C'est le grand Lorenz d'Arabie. Il y a eu deux grands inventeurs, c'est Raymond Aron qui parle, c'est pas moi, c'est après vraiment les charniers considérables. Staline était nul. Il y a eu deux grands inventeurs militaires. C'est probable. C'est Lorenz et Mao Tse-Tung, bien sûr. Lorenz est admirable, n'est-ce pas ? Il avait l'armée turque en face de lui. Une grosse armée énorme, avec il avait très peu de moyens. Et il a décidé de faire de la guerre dans le désert une guerre maritime. C'est-à-dire, jamais de choc frontal. Du piratage, si vous voulez. Voilà, c'est ça. On fonce sur l'adversaire, qui est gros, qui est lourd, qui s'épuise, qui transpire. Et on se retire aussitôt. On se retire aussitôt dans des zones protégées, hein, en général au bord de l'eau. Après ça, il faut évidemment former des gens qui ont une excellente mémoire. Il n'y a pas d'écrit, il faut qu'ils soient... Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, c'est toujours la même chose qui se poursuit. C'est la clandestinité avec des gens qui ont un système nerveux et qui peuvent porter des coups décisifs à un adversaire 10 fois plus grand en nombre. On vous parle de ça tous les jours. Hein. Je ne vous fais pas en ce moment l'apologie d'Al-Qaïda. Ce n'est pas du tout ma tasse de brebure. Mais vous comprenez que c'est quand même intéressant de voir que de très gros moyens servent en général à pas grand-chose. La littérature, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'on raconte tout le temps, c'est cette espèce d'ornement. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la guerre. Et c'est Mandelstam qui a dit ça. La poésie, c'est toujours la guerre.
Donc la revue, ce sera ça.
La revue, l'intervention sociale, quand il faut, avec des zigzags, évidemment, parce que si vous êtes étiqueté... Le problème, c'est de ne pas être étiqueté, ou qu'on vous reproche de différentes identités. J'ai dit de mes romans que les narrateurs avaient, de mes romans avaient des identités rapprochées multiples, IRM. C'est-à-dire que ça vient de l'expérience du roman, de mes romans. La façon de vivre doit être telle que ça puisse être une vie romanesque avec des identités rapprochées multiples. C'est-à-dire qu'on se comporter, c'est souvent un thème, en agent secret pour son propre compte. Je ne suis au service de personne.
Un été avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Julien Bourdet, mixage Olivier Dupré. Nous retrouvons Philippe Solers samedi et dimanche prochain pour des femmes et des lieux.